Chapitre 8, le 1er septembre, pendant la nuit du 1er au 2 septembre. Or, voici ce qui était arrivé à la suite de l'événement tragicomique que nous venons de raconter. Monsieur de Beausire, écroué à la prison du Châtelet, avait été déféré au jury chargé de connaître spécialement des délits de vol commis le 10 août et les jours suivants. Il n'y avait pas moyen de nier, le fait était trop clairement établi. Aussi le prévenu s'était-il borné à confesser humblement sa faute et à implorer la clémence du tribunal. Le tribunal avait ordonné de rechercher les antécédents de M. de Beausire et, peu édifié des renseignements qu'avait fournis l'enquête, il avait condamné l'ancien exempt à 5 ans de galère et à l'exposition. M. de Beausire avait en vain allégué qu'il avait été entraîné à ce vol par des sentiments honorables, c'est-à-dire par l'espoir d'assurer un avenir tranquille à sa femme et à son fils. Rien n'avait pu conjurer la sentence, et comme en sa qualité de tribunal spécial, celui-là était sans appel, le surlendemain du jugement, la sentence devenait exécutoire. Hélas, que ne l'était-elle à l'instant même ? La fatalité voulut que, la veille du jour où M. de Beausire devait être exposé, on introduisit dans la prison un de ses anciens camarades. La reconnaissance se fit, les confidences s'ensuivirent. Le nouvel emprisonné l'était, disait-il, à propos d'un complot parfaitement organisé et qui devait éclater sur la place de Grève ou sur celle du palais. Les conjurés se réuniraient là en nombre considérable sous prétexte de voir la première exposition qui aurait lieu, on exposait indifféremment à cette époque sur la place de Grève ou en face du palais de justice, et, au cri de « Vive le roi, vive les Prussiens, mort à la nation », s'empareraient de l'hôtel de ville, appelleraient à leur secours la garde nationale, dont les 2/3 étaient royalistes ou tout au moins constitutionnels, maintiendraient l'abolition de la commune, cassée le 30 août par l'Assemblée, et accompliraient enfin la contre-révolution royaliste. Par malheur, c'était cet ami de M. de Beausire, nouvellement arrêté, qui devait donner le signal. Or, les autres conjurés, ignorant son arrestation, se rendraient sur la place le jour de l'exposition du premier condamné, et comme personne ne serait plus là pour crier « Vive le roi, vive les Prussiens, mort à la nation », le mouvement n'aurait pas lieu. C'était d'autant plus regrettable, ajoutait l'ami, que jamais mouvement n'avait été mieux combiné et n'avait promis un résultat plus certain. L'arrestation de l'ami de M. de Beausire avait en outre ceci de déplorable que, bien certainement, au milieu du tumulte, le condamné ne pourrait manquer d'être délivré, de fuir et d'échapper ainsi à cette double peine de la marque et des galères. M. de Beausire, quoique n'ayant pas d'opinion bien arrêtée, avait toujours au fond penché pour la royauté. Il commença donc par regretter amèrement pour le roi, et ensuite subsidiairement pour lui, que le mouvement ne pût avoir lieu. Tout à coup, il se frappa le front. Il venait d'être illuminé d'une idée subite. « Mais, dit-il à son camarade, cette première exposition, ce devait être la mienne. Sans doute, ce qui, je te le répète, eût été un grand bonheur pour toi. Et tu dis que ton arrestation est inconnue ?»« Complètement. » Alors les conjurés ne s'en réuniront pas moins, tout comme si tu n'étais pas arrêté. Parfaitement. De sorte que si quelqu'un donnait le signal convenu, la conspiration éclaterait. Oui, mais qui veux-tu qu'il donne quand je suis arrêté et que je ne puis communiquer avec le dehors? Moi, dit Beausire, du ton de m'aider dans la tragédie de Corneille. Toi? Et sans doute, moi. J'y serai, moi, n'est-ce pas, puisque c'est moi qu'on expose. Eh bien, c'est moi qui crierai « Vive les Prussiens, vive le roi, mort à la nation !» Ce n'est pas bien difficile, ce me semble. » Le camarade de Beausire resta comme émerveillé. « J'avais toujours dit, s'écria-t-il, que tu étais un homme de génie !» Beausire s'inclina. « Et si tu fais cela, continua le prisonnier royaliste, non seulement tu seras délivré, non seulement tu seras gracié, mais encore je proclamerai que c'est à toi qu'est due la réussite de la conjuration et tu peux d'avance te vanter de recevoir une belle récompense. »« Oh, ce n'est point en vue de cela que j'agis, répondit Beausire de l'air le plus désintéressé du monde. « Par Dieu, dit l'ami, mais n'importe, la récompense venant, je te conseille de ne pas la refuser. » « Si tu me le conseilles, dit Beausire, je fais plus, je t'y invite, et au besoin je te l'ordonne, insista, majestueusement l'ami. Soit, dit Beau Sire. Eh bien, reprit l'ami, demain nous déjeunerons ensemble. Le directeur de la prison ne refusera point cette dernière faveur à deux camarades, et nous boirons une bonne bouteille de vin à la réussite de la conjuration. Beau Sire conservait bien quelques doutes sur la complaisance du directeur de la prison à l'endroit du déjeuner du lendemain, mais qu'il déjeunât ou non avec son ami, il était décidé à tenir la promesse qu'il avait faite. À sa grande satisfaction, l'autorisation fut donnée par son directeur. Les deux amis déjeunèrent ensemble. Ce fut non point une bouteille qu'ils burent, mais deux, mais trois, mais quatre. À la quatrième, Monsieur de Beau Sire était royaliste furieux. Par bonheur, on vint le chercher pour le conduire à la place de grève avant que la cinquième bouteille fût entamée. Il monta dans la charrette comme un char de triomphe, regardant dédaigneusement cette foule à laquelle il ménageait une si terrible surprise. Sur la borne du pont Notre-Dame, une femme et un petit garçon attendaient son passage. Monsieur de Beau Sire reconnut la pauvre Oliva tout en larmes et le jeune Toussaint qui, voyant son père entre les mains des gendarmes, s'écria « C'est bien fait, pourquoi m'a-t-il battu ?» Beau Sire leur envoya un sourire de protection et il eut ajouté un geste qui, bien certainement, eût été plein de majesté s'il n'eût eu les mains liées derrière le dos. La place de l'hôtel de ville était encombrée de monde. On savait que le condamné expiait un vol fait aux Tuileries. On connaissait, par le compte-rendu des débats, les circonstances qui avaient accompagné et suivi ce vol, et on était sans pitié pour le condamné. Aussi, quand la charrette s'arrêta au pied du pilori, la garde eut-elle toutes les peines du monde à maintenir le peuple. Beau Sire regardait tout ce mouvement, tout ce tumulte, toute cette foule, d'un air qui voulait dire « Vous allez voir, ce sera bien autre chose tout à l'heure ». Quand il parut sur le pilori, ce fut un hurrah universel. Mais cependant, quand approcha le moment de l'exécution, quand le bourreau eut déboutonné la manche du condamné, mis l'épaule à nu et qu'il se baissa pour prendre le fer rouge dans le fourneau, il arriva ce qui arrive toujours, c'est que, devant la suprême majesté de la justice, tout le monde se tut. Beau Sire profita du moment et, réunissant toutes ses forces, d'une voix pleine, sonore, retentissante, il cria « Vive le roi, vive les Prussiens, mort à la nation !» À quelque tumulte que se fût attendu Monsieur de Beau Sire, l'événement dépassa de beaucoup ses espérances. Ce ne furent point des cris, ce furent des hurlements. Toute la foule poussa un rugissement immense et se rua sur le pilori. Cette fois, la garde fut impuissante à protéger Monsieur de Beau Sire. Les rangs furent rompus, l'échafaud fut envahi, le bourreau jeté à bas de l'estrade, le condamné arraché, on ne sait comment, au poteau et précipité dans cette dévorante fourmilière qu'on appelle la multitude. Il allait être tué, broyé, mis en pièces, quand par bonheur un homme se précipita, ceint de son écharpe, du haut du perron de l'hôtel de ville où il assistait à l'exécution. Cet homme, c'était le procureur de la commune, Manuel. Il y avait en lui un grand sentiment d'humanité, qu'il fut parfois contraint de renfermer au fond de son âme, mais qui s'en échappait dans les circonstances pareilles à celles-ci. Il parvint à grand-peine jusqu'à Monsieur de Beau Sire, étendit la main sur lui et, d'une voix forte, « Au nom de la loi, dit-il, je réclame cet homme !» Le peuple hésitait à obéir. Manuel détacha son écharpe et la fit flotter au-dessus de la foule en criant « À moi, tous les bons citoyens !» Une vingtaine d'hommes accoururent et se pressèrent autour de lui. On tira Beau Sire des mains de la foule, il était à moitié mort. Manuel le fit transporter à l'hôtel de ville, mais bientôt l'hôtel de ville fut sérieusement menacé, tant l'exaspération était grande. Manuel parut au balcon. « Cet homme est coupable, dit-il, mais d'un crime pour lequel il n'a pas été jugé. Nommez parmi vous un jury. Ce jury s'assemblera dans une des salles de l'hôtel de ville et statuera sur le sort du coupable. La sentence, quelle qu'elle soit, sera exécutée, mais qu'il y ait sentence. » N'est-il pas curieux que ce soit la veille du massacre des prisons qu'un des hommes que l'on accuse de ce massacre tienne, au péril de sa vie, un pareil langage? Il y a des anomalies en politique, les explique qui pourra. Cet engagement apaisa la foule. Un quart d'heure après, on annonça à Manuel le jury populaire. Ce jury se composait de 21 membres. Ces 21 membres parurent sur le balcon. « Ces hommes sont-ils bien vos délégués ?» demanda Manuel à la foule. La foule, pour toute réponse, battit des mains. Ah, c'est bien, dit Manuel, puisque voilà des juges, justice sera faite. Et comme il l'avait promis, il installa le jury dans une des salles de l'hôtel de ville. Monsieur de Beausire, plus mort que vif, parut devant ce tribunal improvisé. Il essaya de se défendre, mais le second crime était aussi patent que le premier. Seulement, aux yeux du peuple, il était autrement bien grave. Crier « Vive le roi !» quand le roi, reconnu pour traître, était prisonnier au temple. Crier « Vive les Prussiens !» quand les Prussiens venaient de prendre Longwy et n'étaient qu'à 60 lieues de Paris. Crier « Mort à la nation !» quand la nation râlait sur son lit d'agonie, c'était là un crime effroyable et qui méritait une suprême punition. Aussi le jury décida-t-il que le coupable non seulement serait puni de la peine capitale, mais encore que, pour attacher à sa mort la honte que la loi s'était efforcée de lui enlever en substituant la guillotine à la potence, lui, par dérogation à la loi, serait pendu, et pendu sur la place même où avait été commis le crime. En conséquence, sur cet échafaud où s'élevait le pilori, le bourreau reçut l'ordre de dresser la potence. La vue de ce travail et la certitude que le prisonnier, étant gardé à vue, ne pouvait s'échapper, achevèrent de calmer la foule. Voilà donc l'événement qui, comme nous le disions à la fin d'un des précédents chapitres, préoccupait l'assemblée. Le lendemain était un dimanche, circonstance aggravante. L'assemblée comprit que tout marchait au massacre. La commune voulait se maintenir à tout prix. Le massacre, c'est-à-dire la terreur, était pour cela un de ses moyens les plus sûrs. L'assemblée recula devant la décision prise la surveille. Elle rapporta son décret. Alors un des membres se leva. « Ce n'est point assez de rapporter votre décret, dit-il. Il y a 2 jours, en le rendant, vous avez déclaré que la commune avait bien mérité de la patrie. L'éloge est trop vague, car un jour vous pourriez dire que la commune a bien mérité de la patrie, mais que cependant tel ou tel des membres de la commune n'est point compris dans l'éloge. » Alors on poursuivrait tel ou tel membre, il faut dire, non pas la commune, mais les représentants de la commune. L'assemblée vota que les représentants de la commune avaient bien mérité de la patrie. En même temps que l'assemblée émettait ce vote, Robespierre faisait à la commune un long discours dans lequel il disait que l'assemblée, ayant par d'infâmes manœuvres fait perdre au conseil général la confiance publique, le conseil général devait se retirer et employer le seul moyen qui resta de sauver le peuple, c'est-à-dire remettre le pouvoir au peuple. Comme toujours, Robespierre restait douteux et vague, mais terrible. Remettre le pouvoir au peuple, que signifiait cette phrase? Était-ce souscrire au décret de l'Assemblée et accepter la réélection? Ce n'était pas probable. Était-ce déposer le pouvoir légal et, en le déposant, déclarer par cela même que la commune, après avoir fait le 10 août, se regardait comme impuissante devant la continuation de la grande œuvre révolutionnaire et chargeait le peuple de l'achever? Or, le peuple sans frein, le cœur plein de vengeance, chargé de continuer l'œuvre du 10 août, c'était le massacre des hommes qui avaient combattu contre lui au 10 août et qui, depuis lors, étaient enfermés dans les différentes prisons de Paris. Voilà où l'on en était le 1er septembre, au soir, où l'on en est quand un orage pèse dans l'atmosphère et que l'on sent les éclairs et la foudre suspendus au-dessus de toutes les têtes. Voilà donc où en étaient les choses lorsque, le 1er septembre, à 9 heures du soir, l'officieux de Gilbert, le nom de domestique avait été aboli comme anti-républicain, l'officieux de Gilbert entra dans la chambre du docteur en disant « Citoyen Gilbert, le fiacre attend à la porte. » Gilbert enfonça son chapeau sur ses yeux, boutonna sa redingote jusqu'au cou et s'apprêta à sortir. Mais sur le seuil de l'appartement se tenait un homme enveloppé d'un manteau et le front ombragé d'un chapeau à large bord. Gilbert recula d'un pas dans l'obscurité et dans un tel moment tout est ennemi. « C'est moi, Gilbert, » dit une voix bienveillante. « Cagliostro !» s'écria le docteur. « Bon, voilà que vous oubliez que je ne m'appelle plus Cagliostro et que je me nomme le baron Zanon. Il est vrai que pour vous, cher Gilbert, je ne change ni de nom ni de cœur et suis toujours, je l'espère du moins, Joseph Balsamo. Ah oui, » dit Gilbert, « et la preuve, c'est que j'allais chez vous. »« Je m'en doutais, » dit Cagliostro, « et c'est pour cela que je viens ici. » car vous devez bien vous douter que, dans des jours pareils, je ne fais point ce que vient de faire monsieur de Robespierre, je ne pars point pour la campagne. Aussi craignais-je de ne point vous rencontrer, et suis-je bien heureux de vous voir. Entrez donc, je vous en prie, entrez. Eh bien, me voici, dites, que désirez-vous ? Demanda Cagliostro, suivant Gilbert dans la chambre la plus retirée de l'appartement du docteur. Asseyez-vous, maître. Cagliostro s'assit. Vous savez ce qui se passe, reprit Gilbert. Vous voulez dire ce qui va se passer, répondit Cagliostro, car pour le moment il ne se passe rien. Non, vous avez raison, mais quelque chose de terrible se prépare, n'est-ce pas ? De terrible, en effet, c'est qu'aussi parfois le terrible devient nécessaire. Maître, dit Gilbert, quand vous prononcez de telles paroles avec votre inexorable sang-froid, vous me faites frémir. Que voulez-vous ? Je ne suis qu'un écho, l'écho de la fatalité. Gilbert baissa la tête. Vous rappelez-vous, Gilbert, ce que je vous disais le jour où je vous vis à Bellevue, le 6 octobre, quand je vous prédis la mort du marquis de Favras ? Gilbert tressaillit. Lui, si fort en face des hommes et même des événements, il se sentait, devant ce personnage mystérieux, faible comme un enfant. « Je vous disais, continua Cagliostro, que si le roi avait dans sa pauvre cervelle un grain de cet esprit de conservation que j'espérais, moi, qu'il n'avait pas, il fuirait. »« Eh bien, répondit Gilbert, il a fui. »« Oui, mais moi j'entendais pendant qu'il serait temps encore, et quand il a fui, dame, vous le savez, il n'était plus temps. » J'ajoutais, vous ne l'avez pas oublié, que si le roi résistait, que si la reine résistait, que si les nobles résistaient, nous ferions une révolution. Oui, vous avez raison, cette fois encore, la révolution est faite, dit Gilbert, avec un soupir. Pas complètement, reprit Cagliostro, mais elle se fait, comme vous le voyez, mon cher Gilbert. Vous rappelez-vous encore que je vous avais parlé d'un instrument qu'inventait un de mes amis, le docteur Guillotin? « Avez-vous passé sur la place du Carrousel, là, en face des Tuileries ? Eh bien, cet instrument, le même que j'avais fait voir à la reine, au château de Tavernay, dans une carafe, vous vous souvenez, vous étiez là, petit garçon, pas plus haut que cela, et déjà l'amant de mademoiselle Nicole, tenez, dont le mari, ce cher monsieur de Beaucire, vient d'être condamné à être pendu, elle ne l'a pas volé. Eh bien, cet instrument fonctionne. » « Oui, dit Gilbert, et même trop lentement, à ce qu'il paraît. » puisqu'on veut y adjoindre les sabres, les piques et les poignards. « Écoutez, dit Cagliostro, il faut convenir d'une chose, c'est que nous avons affaire à de cruels entêtés. On donne aux aristocrates, à la cour, au roi, à la reine, toutes sortes d'avertissements, et cela ne sert à rien. On prend la Bastille, cela ne sert à rien. On fait les 5 et 6 octobre, cela ne sert à rien. On fait le 20 juin, cela ne sert à rien. On fait le 10 août, cela ne sert à rien. » On met le roi au temple, on met les aristocrates à l'abbaye, à la force, à Bicêtre, cela ne sert à rien. Le roi au temple se réjouit de la prise de Longwy par les Prussiens. Les aristocrates à l'abbaye crient « Vive le roi, vive les Prussiens !» Ils boivent du vin de champagne au nez de ce pauvre peuple qui boit de l'eau. Ils mangent des pâtés de truffes à la barbe du pauvre peuple qui manque de pain. Il n'est pas jusqu'au roi Guillaume de Prusse à qui l'on écrive hein, « Prenez garde, si vous dépassez Longwy, si vous faites un pas de plus vers le cœur de la France, ce sera l'arrêt de mort du roi » et qui ne répondent « Quelque affreuse que soit la situation de la famille royale, les armées ne doivent point rétrograder. Je désire de toute mon âme arriver à temps pour sauver le roi de France. Mais avant tout, mon devoir est de sauver l'Europe. Et il marche sur Verdun. Il faut bien en finir. » Et en finir avec quoi ? S'écria Gilbert. Avec le roi, la reine, les aristocrates. Vous assassineriez le roi ? Vous assassineriez la reine ? Oh non, pas eux, ce serait une grande maladresse, il faut les juger, eux, les condamner, les exécuter publiquement, comme on a fait de Charles Ier, mais de tout le reste, il faut s'en débarrasser, docteur, et le plus tôt sera le mieux. Et qui a décidé cela ? Voyons, s'écria Gilbert, est-ce l'intelligence, est-ce l'honnêteté, est-ce la conscience de ce peuple dont vous parlez ? Quand vous aviez Mirabeau pour génie, Lafayette pour loyauté, Vergniaud comme justice, si vous étiez venu me dire au nom de ces trois hommes, il faut tuer, Juste frissonner, comme je frissonne, mais juste douter. Voyons aujourd'hui, au nom de qui venez-vous me dire cela? Au nom d'un Hébert, marchand de contremarque, d'un Colloderbois, historien sifflé, d'un Marat, esprit malade, que son médecin est obligé de saigner toutes les fois qu'il demande 50 000, 100 000, 200 000 têtes? Non, laissez-moi, cher maître, récuser ces hommes médiocres, à qui il faut des crises rapides et pathétiques, des changements à vue. Ces mauvais dramaturges, ces rhéteurs impuissants qui se plaisent aux destructions subites, qui se croient d'habiles magiciens lorsque, simples mortels, ils ont défait l'œuvre de Dieu, qui trouvent beau, grand, sublime, de remonter ce fleuve de vie qui alimente le monde en exterminant d'un mot, d'un signe, d'un clin d'œil, en faisant disparaître d'un souffle l'obstacle vivant que la nature avait mis 20, 30, 40, 50 ans à leur créer. Et ces hommes, cher maître, ce sont des misérables, et vous, vous n'êtes pas de ces hommes.
Mon cher Gilbert, dit Cagliostro, vous vous trompez encore. Vous appelez ces hommes des hommes. Vous leur faites trop d'honneur, ils ne sont que des instruments.
Des instruments de destruction.
Oui, mais au bénéfice d'une idée. Cette idée, Gilbert, c'est l'affranchissement des peuples, c'est la liberté, c'est la République, non pas française, Dieu me garde d'une idée aussi égoïste, mais la République universelle, la fraternité du monde. Non, ces hommes n'ont pas de génie, non, ils n'ont pas de loyauté, non, ils n'ont pas la conscience, mais ils ont ce qui est bien plus fort, plus inexorable, bien plus irrésistible que tout cela, ils ont l'instinct.
L'instinct d'Attila.
Justement, vous l'avez dit, d'Attila, qui s'intitulait le marteau de Dieu et qui venait avec le sang barbare des Huns, des Alains, des Suèves, retremper la civilisation romaine corrompue par 400 ans de règne de Néron, de Vespasien et d'Héliogabale.
Mais enfin, s'écria Gilbert, résumons au lieu de généraliser, où nous conduira ce massacre, hein?
Oh, à une chose bien simple, à compromettre l'Assemblée, la Commune, le peuple, Paris tout entier. Il faut tacher Paris de sang, vous le comprenez bien, parce que Paris, ce cerveau de la France, cette pensée de l'Europe, cette âme du monde, Paris, sentant qu'il n'y a plus pour lui de pardon possible, devra se lever comme un seul homme, pousser devant lui la France et jeter l'ennemi hors du sol sacré de la patrie.
Mais vous n'êtes pas français, vous, s'écria Gilbert, que vous importe?
Cagliostro sourit. Se peut-il que vous, Gilbert, vous, intelligence supérieure, vous, puissante organisation, vous disiez à un homme, ne te mêle pas des affaires de la France car tu n'es pas français? Est-ce que les affaires de la France, Gilbert, ne sont pas les affaires du monde? Est-ce que la France travaille pour elle seule, pauvre égoïste? Est-ce que Jésus mourait pour les Juifs seuls? De quel droit serais-tu venu dire à un apôtre, tu n'es pas nazaréen?
Écoute, écoute, Gilbert, j'ai discuté toutes ces choses avec un génie bien autrement fort que le mien, que le tien, avec un homme ou un démon qu'on appelait Altotas. Un jour qu'il me faisait le calcul du sang qu'il y aurait à verser avant que le soleil se levât sur la liberté du monde. Eh bien, les raisonnements de cet homme n'ont point ébranlé ma conviction. J'ai marché, je marche, je marcherai, renversant tout ce que je trouverai devant moi, et disant d'une voix calme et avec un regard serein, « Malheur à l'obstacle, je suis l'avenir. » Maintenant, tu avais à me demander la grâce de quelqu'un, n'est-ce pas? Cette grâce, je te l'accorde d'avance. Dis-moi le nom de celui ou de celle que tu veux sauver.
Je veux sauver une femme que ni vous ni moi, maître, ne pouvons laisser mourir.
Tu veux sauver la comtesse de Charny?
Je veux sauver la mère de Sébastien.
Tu sais que c'est Danton qui, comme ministre de la justice, tient les clés de la prison.
Oui, mais aussi je sais que vous pouvez dire à Danton « ouvre ou ferme telle porte ».
Cagliostro se leva, s'approcha du secrétaire, traça sur un petit carré de papier une espèce de signe cabalistique et présenta ce papier à Gilbert. « Tiens, mon fils, dit-il, va trouver Danton et demande-lui ce que tu voudras. »
Gilbert se leva.
« Mais après, lui demanda Cagliostro, que comptes-tu faire ? »
« Après quoi ? » ?»«
Après les jours qui vont s'écouler, quand le tour du roi sera venu. »
« Je compte, dit Gilbert, me faire nommer, si je puis, membre de la Convention, et m'opposer de tout mon pouvoir à la mort du roi. »
« Oui, reprit Cagliostro, je comprends cela. Fais donc selon ta conscience, Gilbert, mais promets-moi une chose. »
« Laquelle ? » Ah, il fut un temps où tu eusses promis sans condition, Gilbert. Dans ce temps, vous ne veniez pas me dire qu'on guérissait un peuple par l'assassinat, une nation par le meurtre. Soit. Eh bien, promets-moi, Gilbert, que le roi jugé, que le roi exécuté, tu suivras le conseil que je te donnerai. Gilbert lui tendit la main. Tout conseil qui viendra de vous, maître, me sera précieux. Et sera-t-il suivi? Demanda Cagliostro. Je vous le jure, s'il ne blesse pas ma conscience. Ah, Gilbert, tu es injuste, dit Cagliostro. Je t'ai beaucoup offert, ai-je jamais rien exigé? Non, maître, dit Gilbert, et maintenant encore, vous venez de me donner une vie qui m'est plus chère que la mienne. Va donc, dit Cagliostro, et que le génie de la France, dont tu es un des plus nobles fils, te conduise. Cagliostro sortit, Gilbert le suivit. Le fiacre attendait toujours, le docteur y monta et ordonna de toucher au ministère de la justice. C'était là qu'était Danton. Danton, comme ministre de la justice, avait un spécieux prétexte pour ne pas paraître à la commune. D'ailleurs, qu'avait-il besoin d'y paraître? Marat et Robespierre n'y étaient-ils point? Robespierre ne se laisserait pas dépasser par Marat. Attelé au meurtre, il marcherait d'un même pas. De plus, Tallien les surveillait. Deux choses attendaient Danton. En supposant qu'il se décida pour la commune, un triumvirat avec Marat et Robespierre, en supposant que l'Assemblée se décida pour lui, une dictature comme ministre de la justice. Il ne voulut pas de Robespierre et de Marat, mais l'Assemblée ne voulut pas de lui. Quand Gilbert lui fut annoncé, il était avec sa femme, ou plutôt sa femme se tenait à ses pieds. Le massacre était si connu d'avance qu'elle le suppliait de ne point permettre le massacre. Elle en mourut de douleur, la pauvre femme, lorsque le massacre eut eu lieu. Danton ne pouvait lui faire comprendre une chose bien claire, cependant, c'est qu'il ne pouvait rien contre les décisions de la commune sans une autorité dictatoriale conférée par l'Assemblée. Avec l'Assemblée, il y avait chance de victoire, sans l'Assemblée, il y avait défaite certaine. « Meurs, 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 s'il le faut !» criait la pauvre femme, « mais que le massacre n'ait pas lieu !» Un homme comme moi ne meurt pas inutilement, répondait Danton. Je veux bien mourir, mais que ma mort soit utile à la patrie. On annonça le docteur Gilbert. Ah, je ne sortirai pas, dit madame Danton, que tu ne m'aies promis de tout faire au monde pour empêcher cet abominable crime. Alors, reste, dit Danton. Madame Danton fit trois pas en arrière et laissa son mari aller au devant du docteur qu'il connaissait de vue et de réputation. « Ah, docteur, dit-il, vous arrivez bien. Si j'avais connu votre adresse, en vérité, je vous eusse envoyé chercher. » Gilbert salua Danton, et, voyant derrière lui une femme en larmes, s'inclina. « Tenez, voici ma femme, la femme du citoyen Danton, ministre de la justice, qui croit que je suis assez fort, à moi tout seul, pour empêcher Monsieur Marat et Monsieur Robespierre, poussés par toute la commune de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pour les empêcher de tuer, d'exterminer, d'égorger. » Gilbert regarda madame Danton. Celle-ci pleurait, les mains jointes. « Madame, dit Gilbert, pouvez-vous me permettre de baiser ces mains miséricordieuses ?»« Bon, reprit Danton, voilà du renfort qui arrive. » « Oh, dites-lui donc cela, monsieur, s'écria la pauvre femme, que s'il permet cela, c'est une tache de sang sur toute sa vie. » « Si ce n'était que cela encore, dit Gilbert, si cette tâche devait rester au front d'un homme et que, croyant utile à son pays, nécessaire à la France, cette souillure qui s'attachera à son nom, cet homme se dévoua, jeta son honneur dans le gouffre, comme déçu s'il jeta son corps, ce ne serait rien. Qu'importe, dans les circonstances comme celles où nous sommes, la vie, la réputation, l'honneur d'un citoyen, mais ce sera une tâche au front de la France. » « Citoyen, dit Danton, quand le Vésuve déborde, dites-moi un homme assez puissant pour arrêter sa lave. Quand la marée monte, dites-moi un bras assez fort pour repousser l'océan. » Lorsqu'on s'appelle Danton, on ne demande pas où est cet homme, on agit, on dit « le voilà ». On ne demande pas où est ce bras, on agit. « Ah, tenez, dit Danton, vous êtes tous insensés. Il faut donc que ce soit moi qui vous dise ce que je ne me laisserai pas dire. Eh bien oui, j'ai la volonté. Eh bien oui, j'ai le génie. Eh bien oui, si l'Assemblée voulait, j'aurais la force. Mais savez-vous ce qui va m'arriver? Ce qui est arrivé à Mirabeau. Son génie n'a pu triompher de sa mauvaise réputation. Je ne suis pas le frénétique Marat pour inspirer la terreur à l'Assemblée. Je ne suis pas l'incorruptible Robespierre pour lui inspirer la confiance. L'Assemblée me refusera les moyens de sauver l'État. Je porterai la peine de ma mauvaise réputation. Elle l'ajournera, elle traînera en longueur. On dira tout bas que je suis un homme sans moralité, un homme à qui l'on ne peut pas donner, même pour 3 jours, un pouvoir absolu, entier, arbitraire. On nommera quelques commissions d'honnêtes gens et pendant ce temps-là, le massacre aura lieu et, comme vous le dites, le sang d'un millier de coupables, le crime de 300 ou 400 ivrognes, tirera sur les scènes de la Révolution un rideau rouge qui en cachera les sublimes hauteurs. « Eh bien non, ajouta-t-il avec un geste magnifique, non, ce ne sera pas la France qu'on accusera, ce sera moi. Je détournerai d'elle la malédiction du monde et je la ferai rouler sur ma tête. » « Et moi, et tes enfants ?» s'écria la malheureuse femme. « Toi, dit Danton, tu en mourras, tu l'as dit, et on ne t'accusera pas d'être ma complice, puisque mon crime t'aura tué. Quant à mes enfants, ce sont des fils. Ils seront un jour des hommes, et, sois tranquille, ils auront le cœur de leur père, et ils porteront le nom de Danton, la tête haute. Ou bien ils seront faibles et me renieront. Ah, tant mieux. Les faibles ne sont point de ma race, et c'est moi dans ce cas qui les renie d'avance. « Mais au moins, s'écria Gilbert, cette autorité, demandez-la à l'Assemblée. » « Croyez-vous que j'ai attendu votre conseil? J'ai envoyé chercher Thuriot, j'ai envoyé chercher Tallien. Femme, vois s'ils sont là et s'ils y sont. Fais entrer Thuriot. » Madame Danton sortit vivement. « Je vais tenter la fortune devant vous, monsieur Gilbert, dit Danton. Vous serez témoin devant la postérité des efforts que j'aurai faits. » La porte se rouvrit. « Voici le citoyen Thuriot, mon ami, annonça Madame Danton. Ah, « Viens ici, dit Danton, en tendant sa large main à celui qui jouait à ses côtés le rôle qu'un aide-de-camp joue près d'un général. « Tu as dit un mot sublime l'autre jour à la tribune. La Révolution française n'est pas seulement à nous, elle est au monde et nous devons compte à l'humanité tout entière. Eh bien, cette révolution, nous allons tenter un dernier effort pour la garder pure. « Parle, dit Thuriot. Demain, à l'ouverture de la séance, avant qu'aucune discussion soit engagée, voici ce que tu demanderas. Comporte à 300 le nombre des membres du Conseil général de la Commune, de manière à ce que, tout en maintenant les anciens créés le 10 août, on annihile les anciens par les nouveaux. Nous constituons sur cette base fixe la représentation de Paris. Nous agrandissons la Commune, mais nous la neutralisons. Nous l'augmentons en nombre, mais nous en modifions l'esprit. Si cette proposition ne passe pas, si tu ne peux leur faire comprendre ma pensée, alors entends-toi avec la croix, dis-lui d'entamer franchement la question, qu'il propose de punir de mort ceux qui, directement ou indirectement, refuseront d'exécuter ou entraveront de quelque manière que ce soit les ordres donnés et les mesures prises par le pouvoir exécutif. Si la proposition passe, c'est la dictature. Le pouvoir exécutif, c'est moi. J'entre, je le réclame, et si l'on hésite à me le donner, je le prends. « Alors, que faites-vous ? » demanda Gilbert. « Alors, dit Danton, alors je saisis un drapeau. Au lieu du sanglant et hideux démon du massacre que je renvoie à ces ténèbres, j'invoque le génie noble et serein des batailles, qui frappe sans peur ni colère, qui regarde en paix la mort. » Je demande à toutes ces bandes si c'est pour égorger des hommes désarmés qu'elles se sont réunies. Je déclare infâme quiconque menace les prisons. Peut-être beaucoup approuvent-ils le massacre, mais les massacreurs sont peu nombreux. Je profite de l'élan militaire qui règne dans Paris. J'enveloppe le petit nombre des meurtriers dans le tourbillon de volontaires vraiment soldats qui n'attend qu'un ordre pour partir. Et je lance à la frontière, c'est-à-dire contre l'ennemi, l'élément immonde dominé par l'élément généreux. « Ah, faites cela !» s'écria Gilbert, « et vous aurez fait une chose grande, magnifique, sublime. »« Eh, mon Dieu !» dit Danton, en haussant les épaules avec un singulier mélange de force, d'insouciance et de doute, « c'est la chose la plus facile, que l'on m'aide seulement, eh, vous verrez. » Madame Danton baisait les mains de son mari. « On t'aidera, Danton, dit-elle, qui ne serait pas de ton avis en t'entendant parler ainsi ?»« Oui, répondit Danton, mais malheureusement je ne puis parler ainsi, car si j'échouais en parlant ainsi, c'est par moi que commencerait le massacre. »« Eh bien, dit vivement Madame Danton, ne vaudrait-il pas mieux finir comme cela ?»« femme qui parle comme une femme. Et moi mort, que deviendrait la révolution entre ce fou sanguinaire qu'on appelle Marat et ce faux utopiste qu'on appelle Robespierre? Non, je ne dois pas, je ne veux pas mourir encore. Ce que je dois, c'est empêcher le massacre si je puis. C'est, si le massacre a lieu malgré moi, d'en décharger la France et de le prendre pour mon compte. Je marcherai de même à mon but, seulement j'y marcherai plus terrible. Appelle Tallien. Tallien entra. Tallien, lui dit Danton, il se peut que demain la commune m'écrive pour m'inviter à me rendre à la municipalité. Vous êtes le secrétaire de la commune. Arrangez-vous de façon à ce que la lettre ne m'arrive pas et à ce que je puisse prouver qu'elle ne m'est point arrivée. Diable, dit Tallien, et comment ferais-je? Ah, cela vous regarde, je vous dis ce que je désire, ce que je veux, ce qui doit être. C'est à vous de trouver les moyens. Venez, monsieur Gilbert, vous avez quelque chose à me demander. Et ouvrant la porte d'un petit cabinet, il y fit entrer Gilbert et l'y suivit. Voyons, dit Danton, à quoi puis-je vous être utile? Gilbert tira de sa poche le papier que lui avait donné Cagliostro et le présenta à Danton. « Ah, dit celui-ci, vous venez de sa part. Eh bien, que désirez-vous ? » ?»« La liberté d'une femme enfermée à l'abbaye. Son nom ? La comtesse de Charny. » Danton prit un papier et écrivit l'ordre d'élargissement. « Tenez, dit-il, en avez-vous d'autres à sauver ? Parlez, je voudrais pouvoir partiellement les sauver tous, les malheureux. » Gilbert s'inclina. « J'ai ce que je désire, dit-il. » « Allez donc, monsieur Gilbert, et si vous avez jamais besoin de moi, venez me trouver directement, d'homme à homme, sans intermédiaire. Je serai trop heureux de faire quelque chose pour vous. » Puis, le reconduisant, « Ah, murmura-t-il, si j'avais seulement pour 24 heures votre réputation d'honnête homme, monsieur Gilbert. » Et il referma la porte derrière le docteur en poussant un soupir et en essuyant la sueur qui coulait sur son front. Porteur du précieux papier qui lui rendait la vie d'André, Gilbert se rendit à l'abbaye. Quoiqu'il fût près de minuit, des groupes menaçants stationnaient encore aux alentours de la prison. Gilbert passa au milieu d'eux et vint frapper à la porte. La porte sombre à la voûte basse s'ouvrit. Gilbert passa en frissonnant. Cette voûte basse était non pas celle d'une prison, mais celle d'un tombeau. Il présenta son ordre au directeur. L'ordre portait de mettre à l'instant même en liberté la personne que désignerait le docteur Gilbert. Gilbert désigna la comtesse de Charny et le directeur ordonna à un porte-clé de conduire le citoyen Gilbert à la chambre de la prisonnière. Gilbert suivit le porte-clé, monta derrière lui 3 étages d'un petit escalier à vis et entra dans une cellule éclairée par une lampe. Une femme toute vêtue de noir, pâle comme un marbre sous ses habits de deuil, était assise près de la table sur laquelle était posée la lampe et lisait un petit livre relié en chagrin et orné d'une croix d'argent. Le reste du feu brûlait dans une cheminée à côté d'elle. Malgré le bruit que fit la porte en s'ouvrant, elle ne leva point les yeux. Malgré le bruit que fit Gilbert en s'approchant, elle ne leva point les yeux. Elle semblait absorbée dans sa lecture, ou plutôt dans sa pensée, car Gilbert resta 2 ou 3 minutes devant elle sans lui voir tourner la page. Le porte-clé avait tiré la porte derrière Gilbert et se tenait en dehors. « Madame la comtesse, » dit enfin Gilbert. André leva les yeux, regarda un instant sans voir. Le voile de sa pensée était encore entre son regard et l'homme qui se tenait devant elle. Il s'éclaircit peu à peu. « Ah, c'est vous, monsieur Gilbert, » demanda André. « Que me voulez-vous ? » « Madame, répondit Gilbert, des bruits sinistres courent sur ce qui va se passer demain dans les prisons. « Oui, dit André, il paraît qu'on doit nous égorger. Mais vous savez, monsieur Gilbert, que je suis prêt à mourir. » Gilbert s'inclina. « Je viens vous chercher, madame, » dit-il. « Vous venez me chercher ? » demanda André avec surprise. « Pour me conduire où ? » ?»« Où vous voudrez, madame, vous êtes libre. » Et il lui présenta l'ordre d'élargissement signé de Danton. Elle lut cet ordre, mais au lieu de le rendre au docteur, elle le garda dans sa main. « J'aurais dû m'en douter, docteur, » dit-elle en essayant de sourire, chose que son visage semblait avoir désapprise. « De quoi, madame ? Que vous veniez pour m'empêcher de mourir ?»« Madame, il y a une existence au monde qui m'est plus précieuse que ne m'eût jamais été celle de mon père ou de ma mère si Dieu m'eût accordé un père ou une mère, c'est la vôtre. Oui, et voilà pourquoi, une première fois déjà, vous m'avez manqué de parole. Je ne vous ai pas manqué de parole, madame, je vous ai envoyé le poison. Par mon fils. Je ne vous avais pas dit par qui je vous l'enverrai. De sorte que vous avez pensé à moi, monsieur Gilbert, de sorte que vous êtes entré pour moi dans l'antre du lion, de sorte que vous en êtes sorti avec le talisman qui ouvre les portes. Je vous ai dit, madame, que tant que je vivrai, vous ne pouviez pas mourir. Oh, cette fois cependant, monsieur Gilbert, dit André, avec un sourire mieux dessiné que le premier, je crois que je tiens bien la mort, allez. Madame, je vous déclare que dussé-je employer la force pour vous arracher d'ici, vous ne mourrez pas. André, sans répondre, déchira l'ordre de sortie en 4 morceaux et en jeta les morceaux au feu. Essayez, dit-elle. Gilbert poussa un cri. Monsieur Gilbert, dit André, j'ai renoncé à l'idée du suicide, mais je n'ai point renoncé à celle de la mort. Oh, madame, madame, dit Gilbert. Monsieur Gilbert, je veux mourir. Gilbert laissa échapper un gémissement. Tout ce que je demande de vous, c'est que vous tâchiez de retrouver mon corps, de le sauver, mort des outrages auxquels, vivant, il n'a point échappé. Monsieur de Charny repose dans les caveaux de son château de Boursonne. C'est là que j'ai passé les seuls jours heureux de ma vie. Je désire reposer près de lui. Oh, madame, au nom du ciel, je vous adjure. Et moi, monsieur, au nom de mon malheur, je vous prie. C'est bien, madame, vous l'avez dit, je dois vous obéir en tout point. Je me retire, mais je ne suis point vaincu. N'oubliez pas mon dernier désir, monsieur, dit André. Si je ne vous sauve pas malgré vous, madame, dit Gilbert, il sera accompli. Et, saluant encore une fois André, Gilbert se retira. La porte se referma derrière lui, avec ce bruit lugubre particulier aux portes des prisons.